Bon midi. Bienvenue à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Émission avec Jeff Fortin, Pascal CV. C'est vos midis de midi à 14h sur Boulevard 102.1. Pour nous rejoindre, 418-971-1021. Vous pouvez réagir avec nous. Vous pouvez nous poser des questions. On va avoir un invité très, très, très intéressant dans quelques instants, c'est-à-dire Charles Milliard. Faut dire, Pascal, candidat à la chefferie pour le Parti libéral du Québec.
Pour une deuxième fois.
Mais d'après moi, ça va se régler dans pas long qu'on va pouvoir l'appeler Monsieur le Chef.
Penses-tu?
J'ai l'impression que oui.
Ne jamais flatter un politicien, Jeff. Même si c'est le tien, là, je te rappelle que t'es en onde et tout ça.
Ouais, mais ça,
selon la tendance, oui, ça
selon la tendance, oui. Puis malheureusement, il y en a un qui s'est retiré d'une autre course à la chefferie qui fait en sorte que ma prédiction ne fonctionnera pas, qui était ma prédiction qu'on allait s'en aller en élection provinciale à l'été prochain avec un Paul Saint-Pierre Plamondon, évidemment, chef du PQ. Mais j'avais prédit Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, et Simon Jolin Barrette, chef de la CAQ.
Bon, là, déjà, il faut que tu ajustes, mais c'est correct.
Faut que j'ajuste.
La politique, c'est ça. C'est du soubresaut. Une journée, tu penses patauger dans ton enjeu principal. Le lendemain, tu fais la une du journal pour des choses que tu n'as jamais imaginées.
Ben oui.
Tu t'ajustes, tu te réajustes.
Les prédictions en politique, c'est comme des prédictions dans le sport. Ah, on pense que les Rams de Los Angeles vont gagner, finalement, c'est les Seahawks. C'est comme ça. Mais c'est ça, le jeu des prédictions, et c'est toujours plaisant d'y jouer. BLVD.fm, vous allez pouvoir réentendre nos meilleurs moments, notamment notre entrevue avec Charles Milliard dans quelques instants. Et ça inclut la web radio, l'application Boulevard 102.1 sur App Store et Google Play Store. Allez la télécharger. Twitch.tv/BLVD/FM. Si vous voulez venir nous voir justement avec M. Milliard. Et je termine en vous disant de vous abonner à notre page YouTube parce qu'on retrouve plein de contenus exclusifs, notamment le podcast que Denis a fait pour les 50 ans de carrière de Pierre Houde. Pascal CV, ça va bien?
Ça va très bien, ça roule vite.
Ça roule
aujourd'hui.
Hein?
On est arrivé comme jamais à la dernière minute pour cette émission-là parce qu'on a préparé plein de choses. C'est vraiment une émission qu'on est content de vous offrir aujourd'hui.
Vraiment.
De la grosse visite, de la belle visite.
Exactement, l'émission, on aura notamment Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, qui va être avec nous. On va avoir Valérie Beaudoin qui va venir nous parler de politique américaine. Victor Henriquez va nous faire une chronique. Lambert Drainville. Ouf, un gros line-up, ça.
Oui, mais fort intéressant sur des sujets différents. Puis, tu sais, à un moment donné, comme tout le monde, je pense que dans votre routine avec les enfants, avec il vous manque de temps. Mais
ouais.
C'est parfait. Vous êtes dans la bonne émission pour qu'on rattrape ce que vous manquez.
Ça allait être très informé. On commence immédiatement avec le candidat à la chefferie pour le Parti libéral du Québec, Charles Milliard, qui est avec nous en studio. Monsieur Milliard, merci de vous être déplacé.
Merci. Bonjour à vous deux.
Bonjour. On a une relation pas mal virtuelle avec Monsieur Milliard
au
courant des derniers mois parce qu'on était deux personnes qui faisaient leur job, mais un peu agressantes.
Ouais.
Parce qu'on voulait donc avoir le commentaire de Monsieur Milliard.
On va avoir les meilleurs, nous autres, en entrevue et surtout ceux qui font jaser dans l'actualité.
Ben, c'est parce qu'on voulait savoir ce qu'il pensait de la tempête Pablo Rodriguez.
Exactement.
Un homme qui s'est impliqué à la dernière course à la chefferie, qui est arrivé deuxième, très serré, qui a repris sa vie. Et puis là, ouf, ça éclate au niveau du Parti libéral. Mm-hmm. Mais si tu me permets, Jeff, j'aurais la première question.
Ben, let's go, vas-y. Les femmes d'abord.
Monsieur Milliard, bonjour.
Bonjour.
Si je vous demandais de choisir entre Mme Fréchette, M. Drainville, là, comme leader et chef du Parti de la CAQ, vous prendriez qui? À qui vous donnez votre appui?
Ça commence bien, je ne vais pas répondre à votre question. C'est-à-dire que ça prend une carte de membre de la CAQ pour voter. J'en aurai pas, j'en aurai jamais. On verra ce que les militants... Vous savez, c'est une course interne. J'ai quand même beaucoup d'empathie pour eux, parce que je sais c'est quoi.
Ouais.
Des fois, se coltailler un peu à l'interne, c'est jamais facile. Puis en plus, quand on est au gouvernement, ben, on est dans l'œil public big time, comme
Mais
on
je vous
dit.
Agace, je vous agace parce que ce sera probablement, peut-être, on verra la prochaine personne que vous allez affronter,
bien sûr.
C'est sûr, sur la place publique en termes d'enjeux et d'idées. Mais tout ça pour dire que le paysage provincial, même si vous étiez à la course à la chefferie il n'y a pas si longtemps, a énormément changé. On dirait que ça fait 10 ans depuis votre dernière
Je pense que pour monsieur, autant pour Mme Gazal, M. Duhaime que M. Plamondon, ça brasse les cartes. Alors évidemment, le parti qui est l'opposition officielle puis le parti au gouvernement qui change, ça fait une grosse différence. Mais pour revenir à votre question sur M. Drainville, Mme Fréchette, on verra, mais ils auront le même bilan à défendre. Mm-hmm. Ça, c'est le point commun qui les unit, c'est de défendre ce qui s'est passé dans les 8 dernières années. Je trouve ça plutôt comique de les voir se distancer de plein de projets depuis 2 jours. Mais bon, ça fait partie du jeu politique que vous avez mentionné tout à l'heure.
Vous avez parlé du baiser de la mort, l'appui de Jean-François Roberge à Christine Fréchette. Voulez-vous développer?
Bien, les gens vont apprendre à me connaître. Je suis quelqu'un d'assez imagé. Là. J'aime bien essayer de d'illustrer ce que je pense. Ce que je voulais dire par là, un peu à la blague, c'est que dans le fond... On ne peut pas prétendre vouloir être un premier ministre à caractère économique et s'allier avec des gens qui ont été ceux qui ont le plus nui aux entrepreneurs dans les dernières
années.
Qu'est-ce
que vous voulez dire?
Bien, sur les politiques migratoires, les entrepreneurs sont quand même assez clairs qu'il manque de monde dans nos entreprises. Puis c'est pas juste une histoire de Montréal, Laval, c'est une histoire de Bas-Saint-Laurent, de Côte-Nord, partout. Alors, de voir les deux qui ont réduit, oui, l'immigration, mais surtout qui ont décidé de mettre un stop au programme de l'expérience québécoise, alors qu'on a des gens qui sont sur le territoire. Donc ça, ce que ça veut dire, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a fait des salons d'emploi à l'international, on a fait des kiosques avec une photo du maire de la Gauchetière, du Stade olympique puis de Bonhomme Carnaval. On a dit aux gens, venez ici. Puis là, finalement, ils arrivent ici, on leur dit, vous savez quoi, finalement, c'est une année d'élection, retournez donc chez vous.
Si vous êtes élu, allez-vous donner une clause grand-père au PEC?
Alors, c'est l'essence de l'entrevue que j'ai donnée au Journal de Québec aujourd'hui. Mais je suis bon joueur, j'aimerais mieux que M. Legault le fasse lui-même, qu'on sauve 8 mois. Puis M. Legault a beaucoup de défauts, mais il est capable de reconnaître quand il fait des erreurs. Il l'a fait à quelques reprises dans son mandat. Pourquoi ne pas dire, écoutez, là, je pense qu'au niveau humain, puis social, ça n'a pas de bon sens. Et mettre une clause grand-père, moi, je serais bien content qu'il le fasse, puis je serais le premier à revenir ici puis à le féliciter.
Vous avez parlé de baiser de la mort. Êtes-vous sadomasochiste pour revenir vouloir être à la tête du Parti libéral qui tentait de toutes les manières possibles dans les dernières années de revenir avec une image redorée et tout ça? Après Pablo Rodriguez et tout ce qui s'est passé, plein d'enquêtes encore ouvertes, Marois Risky qui a pris le bas. Vous aimez vous faire violence?
Bien, la politique, c'est un sport extrême. Là. C'est certain que j'aurais pu m'ouvrir un spa, ça aurait peut-être été plus simple. Mais
parce
moi,
que vous avez d'autres choses sur
votre
CV.
Oui, j'ai d'autres choses. Écoutez, je suis pharmacien de profession, j'ai eu plein d'emplois dans le milieu des affaires. J'enseignais à l'Université Bishop jusqu'à récemment. J'ai quitté mon emploi pour une deuxième fois. Donc, effectivement, sans me traiter de ce que vous avez mentionné, disons que j'aime peut-être un peu le trouble ou l'action extrême, mais j'ai vraiment pensé pendant les fêtes. Les gens pensaient que ma décision était déjà prise. Oui. Je vous dirais qu'elle s'est prise autour du 28-29 décembre.
Pourquoi? Comment?
Je mesurais un peu la tâche, parce que je suis très lucide par rapport à ce qu'on a à faire, mais je mesurais aussi l'enthousiasme des gens qui m'ont supporté dans la campagne, puis j'ai envie de dire, pas les pauvres membres, mais les membres du parti qui se sentent tellement pas concernés par cette situation-là, puis qui se disent, mais est-ce qu'on peut avoir une voix qui est forte au Québec, qui est nationaliste et fédéraliste? Ça embête bien du monde quand je dis ça, mais c'est ce que je pense. Donc, j'ai décidé de relever ce défi-là. Et là, de toute évidence, bien, il n'y a pas foule pour le relever. Alors,
vous le faites pour vous ou pour ceux que vous avez côtoyés?
Bien, écoutez, je le fais beaucoup pour le parti parce que c'est ma famille politique depuis 28 ans. Alors, oui, je veux être premier ministre du Québec, mais l'idée de diriger le Parti libéral du Québec puis de le ramener sur le droit chemin, ça me passionne, cette histoire-là. Alors, je vous le dis ici. Puis en politique, bien, c'est sûr que j'y trouve un intérêt personnel parce que j'aime ça être dans le milieu de l'actualité, j'aime ça traiter de sujets qui touchent les Québécois, qui sont d'ailleurs pas les sujets dont on jase en ce moment, mais on va reparler dans les prochains mois de santé, d'éducation, d'agriculture, de nos routes, de notre secteur minier. C'est ça, gérer le Québec.
Vous déplorez les chicanes internes, les courses à la chefferie, vous déplorez quoi en ce moment?
Bien, je déplore bien des choses, mais tous les politiciens sont responsables du climat politique actuel. T'sais. Puis moi, je pense qu'en politique, il y a deux types de personnes qui donnent le ton à ce qui se passe. C'est vous, comme média, puis c'est moi, comme politicien. Et je pense qu'il faut qu'on change de ton au Québec. Je pense qu'il faut qu'on redevienne un peu plus bienveillant. Il y a tellement d'anxiété dans le monde en ce moment avec M. Trump, avec la Chine, avec M. Poutine. On n'a pas besoin d'un discours anxiogène comme on a entendu dimanche à Saint-Hyacinthe. Alors moi, je vais proposer une autre voie, puis je veux que les Québécois décident. Moi, j'aimerais ça que les Québécois arrivent dans l'isoloir au mois d'octobre et qu'ils se disent, bien, mon Dieu, écoutez, j'ai fait mon choix, mais il y avait des choix de qualité.
Il y avait de la qualité.
C'est très important pour moi. Je préfère qu'ils me choisissent, mais je veux surtout qu'il y ait du choix.
Pour rappel, on parle avec Charles Milliard, qui est candidat à la chefferie pour le Parti libéral du Québec. Vous parliez du discours de dimanche. Évidemment, vous faites référence au discours de Paul Saint-Pierre Plamondon au congrès du Parti québécois. Hier, j'ai vu votre chef par intérim, Marc Tanguay, arriver à la Emmanuel Macron avec ses lunettes fumées.
For sure.
Ouais, exactement. Il a été très critique envers Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis il a parlé de Mark Carney comme juste une petite erreur. Mais moi, pour moi, c'est pas une petite erreur, Mark Carney, ce qu'il a fait de complètement revisiter l'histoire des plus plaine d'Abraham. Là. On n'était pas autour d'une table à jaser entre les Français et les Anglais là, à ce moment-là. Là.
Non, pas tant, non. Écoutez, on a chacun notre style en politique. Moi, je connais bien Marc depuis plusieurs années, puis il me fait toujours sourire parce que c'est un style qui lui appartient. J'aurais un autre style, puis je pense que c'est assez évident. Sur la question du discours des plaines, c'est pas anodin ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'on aurait bien mieux fait de laisser Wolf, Montcalm et Gandhi reposer en paix. Je pense qu'on aurait pu se passer de la dernière semaine. Il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, j'ai critiqué ces passages malheureux-là parce que c'est pas le discours de M. Carney n'était pas tout faux. Mais bon, ce passage-là, moi, je l'ai...
Lequel vous a fâché le plus, Mark Carney ou PSPP?
Ben, celui de PSPP, parce que j'adhère à pas grand-chose de ce qu'il a dit. Mais M. Carney, je pense qu'il a raison de parler du rôle qu'il a. Écoutez, c'est le premier ministre du Canada qui fasse un discours à Victoria, à Calgary, ou ses plaines d'Abraham. C'est le premier ministre du Canada, donc lui, il va parler de l'importance d'unité canadienne. C'est juste que le retour historique, honnêtement, c'est tellement une question sensible ici. Et le peuple francophone, québécois, canadien, français, il a survécu parce qu'ils ont tenu le fort. Parce qu'en 1759, il n'y avait pas de table pour jaser. Là. Il y avait des fusils pour se tirer dessus. Alors, on connaît le résultat, mais on connaît aussi le fait qu'en ce moment, en 2026, on se parle en français avec un accent qui est le nôtre, puis avec une vitalité qui est la nôtre, puis que moi, je veux défendre comme chef du Parti libéral du Québec, parce que le français, ça appartient à aucun parti politique au Québec.
La politique, c'est ingrat, encore plus, on dirait, en 2026 actuellement, tout ce qui se passe dans le monde, les fractures géopolitiques. Vous allez devoir, si vous êtes peut-être premier ministre pour la suite des choses, dealer avec les Américains, avec les Chinois, avec comme jamais, comme peu on a vu dans les dernières décennies. J'ai accroché dans votre avant-dernière réponse, vous m'avez entendu dire un petit « mais », parce que je veux vous entendre sur la ligne fine entre les lunettes roses, le discours optimiste, le discours peut-être plus, positif, versus aussi gérer les affaires difficiles dans lesquelles on vit en ce moment. Il y en a qui en arrachent. On parle de finances, d'économie, d'entrepreneuriat, mais certainement aussi dans la préparation des prochaines années. Ça, c'est en péril.
Alors, merci. Ça me permet de préciser que je ne suis pas un calinours non plus. Là. Je sais très bien que ce n'est pas de la danse sociale dans laquelle je m'embarque. Mais justement, comme les sujets sont tellement conflictuels et anxiogènes, je pense qu'au moins que dans la façon dont on s'exprime, dont on parle aux Québécois, on peut avoir un ton plus calme. Peut-être que ça me vient de mon métier de pharmacien. Là. Les gens arrivent souvent en panique à la pharmacie, veulent des réponses à leurs questions. Puis le rôle du pharmacien, bien, c'est d'écouter, puis c'est de trouver des solutions. Alors, j'essaie peut-être d'importer ça en politique, mais c'est certain qu'on ne peut pas parler de M. Trump avec le grand sourire. Puis
ça vous inquiète-tu, ça, aller. Ces négociations-là
bien sûr que ça
avec
m'inquiète.
Un homme comme Trump?
Tout ce que vous avez mentionné m'inquiète, mais en même temps, est-ce qu'on reste chez nous puis on attend que ça passe ou on s'implique puis on tire avantage, dans notre cas, du fait qu'on fait partie d'un des pays du G7 qui a une position géopolitique particulière. Il n'y a pas un autre pays qui est aussi puissant que le Canada puis qui a un seul voisin qui s'appelle les États-Unis. Alors, on est dans un contexte politique spécial et je ne ressors pas des arguments des précédents référendums, mais le contexte du marché économique de l'Amérique du Nord fait en sorte que l'idée de souveraineté part avec une prise. Ça ne veut pas dire que c'est loufoque. Moi, je ne suis pas là pour dire que le projet souverainiste, c'est... Moi, je veux plus convaincre mon projet que bloquer l'autre. Alors, pour moi, ça, c'est une grosse différence. Mais je pense que dans l'état actuel des choses, la force d'être dans un pays de 41 millions d'habitants, c'est puissant. Le Canada est perfectible. Moi, je vais être le premier à critiquer quand ça ne fait pas mon affaire. Mais en bout de ligne, moi, je veux que ça fonctionne. Le PQ veut séparer le Québec du Canada, c'est clair. La CAQ, c'est pas clair. La CAQ, ça dépend de la nouvelle dans l'actualité.
Parlons-en de la CAQ, parce que la CAQ se dit nationaliste et vous êtes dit nationaliste. Et la CAQ brandit le nationaliste à coup de « moi, j'ai fait la loi sur la laïcité, la loi 21. Moi, j'ai fait la loi pour renforcer le français, la loi 96. » Demain matin, Charles Milliard est premier ministre. Est-ce que la loi sur la laïcité et la loi 96 demeure dans votre nationalisme?
Moi, oui. Oui, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de nuances. Parce que la CAQ veut nous faire croire qu'il n'y a pas de nuances dans ces dossiers-là. C'est pas vrai. La loi 96 vise à protéger le français. Parfait. Est-ce qu'on a vu des statistiques sur comment le français a été protégé dans nos entreprises depuis l'instauration de la loi 96? Je ne les ai pas vues encore, puis je vais être le premier à reconnaître si je les vois. Mais moi, ce que j'entends plus, c'est des entrepreneurs sur la Côte-Nord, en Abitibi, qui se disent « Écoutez, on veut ouvrir un poste, puis on voudrait que l'employé qui va faire les exportations doit parler une autre langue, que ce soit le mandarin, l'anglais, l'espagnol. » Et là, ils doivent remplir un paquet de paperasse. Écoutez, ça aide pas à la protection du français. Alors moi, je veux qu'il y ait un certain nombre de modifications dans ces lois-là, puis je vais l'expliquer, mais je vais l'expliquer aussi après avoir parlé au caucus, parce que là, vous l'avez dit, je ne suis pas chef du parti, je suis candidat. Puis j'arrête
ça pas
de dire...
bien, 13 février?
Oui, mais j'arrête pas de dire qu'il faut travailler en équipe, fait que je vais vouloir parler avec l'équipe, mais ils savent très bien que je loge, moi, sur le fait que je veux faire de la politique au Québec, pas à Ottawa. Alors, les dossiers qui sont prioritaires au Québec, c'est mes dossiers prioritaires aussi.
Bien, vous avez parlé d'équipe, c'était une de mes notes. C'est qui votre équipe? Quelle est votre équipe? Qui en fait partie? Avec ce qu'il y aura comme résultat d'enquête aussi, ça va faire mal au parti. Le parti saigne déjà. Ouais. Ça fait des années qu'on y travaille à redorer le blason. C'est loin d'être facile. Comment est-ce qu'un homme en soi peut remettre une image positive au Parti libéral en ce moment quand on se demande si la gangrène est à l'interne, est auprès du chef, est auprès de... C'est difficile.
Oui, puis je comprends les auditeurs qui se disent « on va te regarder aller puis on va juger ». Puis je suis prêt à prendre ce challenge-là. Mais écoutez, l'équipe, il y a le caucus. Tout le caucus me supporte, sauf les officiers qui doivent demeurer neutres. Ensuite de ça, il y a mon équipe de campagne, donc des gens qui vont avoir des emplois, que ce soit au parti, que ce soit dans l'aide parlementaire, puis qui vont représenter à la fois ce mélange-là d'expérience et de renouveau. Moi, je voudrais pas que les gens pensent que je vais juste arriver avec mon équipe. On va faire un mélange de tout le monde. C'est ça la force du parti. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas en ce moment associés au Parti libéral puis qui me disent, que je rencontre, parce que je fais pas une publication Facebook à toutes les fois que je rencontre quelqu'un, mais je rencontre des gens qui se disent, si tu deviens chef du Parti libéral du Québec, j'aimerais ça participer à son renouveau avec toi. Et je pense qu'on va surprendre dans les candidats qu'on va annoncer. Je pense à Québec, mais j'anticipe déjà dans des régions. Puis c'est même pas un spin. J'anticipe de la chicane dans certaines régions parce qu'il y a plus de candidats de qualité que de compte.
Est-ce que vous anticipez de la chicane au sein de votre parti? Parce que si vous allez chercher à l'externe, vous allez remplacer certaines personnes à l'interne. On sait le rififi qu'il y a eu entre les partisans de Blackburn, qui était un de vos adversaires à la dernière course à la chefferie, et votre équipe aussi. Donc, il faut-tu colmater ces brèches-là?
Bien, ça, c'est déjà colmaté pas mal. J'ai parlé à beaucoup de gens de l'équipe de M. Blackburn. J'ai parlé à Carl aussi, d'ailleurs. J'ai parlé à Pablo. J'ai parlé aux gens de son équipe.
Vous avez fumé le calumet de la paix avec eux? Ou...
On est des gens de parti. Hein? Tous les partis veulent avoir une certaine harmonie. En bout de ligne, on pense la même chose. On a des valeurs qui sont similaires, puis on a des projets similaires pour le Québec. Regardez le Parti québécois qui a été le roi de la chicane là, quand même dans ses congrès dans le passé. Ils ont eu un congrès en
rassemblé.
Oui, mais
là, c'est correct qu'ils les ont envoyés à Québec solidaire.
Ah, ben là,
chicane
bon,
plus.
Québec solidaire, c'est pas facile. Tous les partis ont ce défi-là. Monsieur Duhaime, si jamais il y a des députés élus, il va l'avoir aussi. C'est ça la réalité de la politique. Mais moi, c'est certain qu'il va arriver du nouveau monde. Je veux renouveler le parti. On va pas juste faire ça non plus avec des photos du passé.
En terminant, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec une personnalité très forte comme Marois Risky?
Alors, j'ai mentionné que j'allais la rencontrer prochainement. Pour moi, je me cache pas de ça. Ça fait partie de ma job de candidat.
Parce qu'elle vous a quand même aidé là, à devenir chef du PLQ. Là, avec
mais
elle
quitte en même temps.
C'est une aide très indirecte. Mais tout ça pour dire que je vais avoir une discussion avec elle. C'est une parlementaire redoutable. Puis Greg Kelly, qui est son mari, fait partie de mon équipe.
Alors, il aurait intégré le caucus
on,
hier.
On convient que c'est une situation qui est spéciale. On ne fait pas semblant. Mais je vais rapidement prendre une décision. Mais avec le caucus, moi, je suis un joueur d'équipe. La politique, c'est un sport d'équipe, même s'il y a des statistiques individuelles. Donc, rapidement, je reviendrai vous voir, si vous voulez, pour vous faire part de ma décision, mais je ne prendrai pas une décision avant d'être chef.
Quel gâteau vous aimez le mieux, brownies ou millefeuilles?
Là, vous ne croirez pas à ça.
Ouais.
Et vous demanderez à ma famille, j'aime pas le chocolat.
Vous aimez pas le chocolat?
Non.
J'en connais d'autres comme ça, mais ils sont bizarres. Fait que là,
ouais,
ça,
c'est ça. Mais peut-être que vu qu'ils n'aiment pas le chocolat, on va être correct.
J'ai plein d'autres qualités. J'aime le pudding chômeur, puis je ne suis pas un chômeur.
Monsieur Milliard, merci beaucoup de vous être présenté en studio avec nous. C'était un échange très, très, très intéressant.
Merci à vous deux.
Bonne chance dans la course à la chefferie. Puis à compter du 13 février, j'imagine qu'on va pouvoir vous appeler Monsieur le chef. Vous reviendrez vous asseoir pour une entrevue.
À suivre.
Merci beaucoup. C'était Charles Milliard, candidat à la chefferie pour le Parti libéral du Québec, qui a fait un tour en studio avec nous. Pascal, je te propose qu'on fasse une pause pour nos auditeurs également. Et par la suite, je veux absolument qu'on se parle du tramway. Parce que là, je trouve que c'est l'enfer des communications du tramway. Là. Les commerçants ne savent pas trop ce qui arrive. Les gens, c'est à la grande allée. Vas-tu avoir des camions qui vont passer là de construction en pleine période estivale quand normalement est piétonne? On dirait que je trouve qu'il y a des problèmes encore de communication au niveau de la Ville de Québec. Puis je veux t'entendre là-dessus.
L'an dernier, ça va ouvrir la conversation, mais l'an dernier, rappelez-vous, avec la grève au RTC, à quel point ça a été plus complexe pour le Festival d'été de Québec. Ouais. On s'en est sorti. Mais là, c'est René Lévesque est fermé sur 4 km et la Grande Allée devient piétonne pour le FEC.
Mais là, qu'elle ne pourra pas être piétonne? Je trouve qu'il y a un manque.
Non, on n'est pas piétonne.
C'est ça, exactement.
Pour le FEC.
Oui, je trouve qu'il y a un manque dans les communications de la ville. On en parle immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 101. L'émission On en jase sur Boulevard 101, c'est de midi à 14h. Après l'émission, immédiatement sur le belvd.fm, on va mettre l'entrevue avec Charles Milliard. On va également vous déposer une entrevue qu'on va faire à 13h, aux alentours de 13h, avec Catherine Fournier. Vous n'avez pas vu les photos dans le clin d'œil? Allez jeter un coup d'œil. Petit jeu de mots, Pascal TV. C'est des photos magnifiques de Catherine Fournier. Puis vraiment, elle sort des sentiers battus et elle repousse les codes avec sa présence en politique. On est très heureux d'avoir une femme aussi assumée en politique municipale. Les gens de Longueuil sont très, très, très chanceux et choyés de l'avoir. À la météo, présentement, c'est moins 18, moins 27 avec le facteur de refroidissement éolien. Puis, chers auditeurs, chères auditrices, ça ne s'améliorera pas. Moins 21 cette nuit, moins 13 demain, alternance de soleil et nuages. Moins 12 vendredi, alternance de soleil et nuages. À plus long terme, ça sera moins 11 pour samedi et dimanche avec un bon facteur de refroidissement éolien. Donc, ça va être froid à Québec pour les prochains jours. Pascal, on a reçu un excellent texto, une auditrice ou un auditeur qui nous écrit « Le monde va tomber en télétravail, ils ne voudront plus retourner au bureau à cause du tramway. Ça va être désert dans le Vieux-Québec. Il y a des commerces qui vont fermer. Je ne peux pas croire qu'on va scraper les étés à Québec pour quelque chose qui va faire grimper encore le compte de taxes. » Moi, j'ai décidé, Pascal, de ne plus trop me plaindre du tramway. Je m'explique, parce que Bruno Marchand était élu à 49% avec 18 conseillers municipaux. Fait que je me dis, OK, c'est beau, les gens de Québec se sont positionnés, on y va pour le tramway. Par contre, on peut-tu avoir une bonne stratégie de communication? Les commerçants ne savent rien de ce qui va arriver. On a appris ça dans les médias. On n'a pas informé l'opposition non plus. Ils l'ont appris dans les médias. Je parle avec des gens de la Société de développement commercial. Ils disent « Ouais, on a une rencontre prévue lundi. Ça va déjà faire une semaine qu'on a annoncé des travaux. » Il me semble que l'administration Marchand l'échappe encore avec le Moses de tramway dans ses communications, comme il l'échappe ses poils à bois. C'est moi qui est trop critique aujourd'hui ou c'est ça?
J'irais plus loin.
Ben, vas-y.
Parce que je suis pas sûre que c'est juste à cause d'un problème de communication. Je pense qu'ils se disent, quand on va l'annoncer puis on va le communiquer, ça va tellement être chaotique, ça va tellement créer des peurs, des incertitudes, de l'insécurité.
T'es-tu en train de me dire qu'on fait des cachettes volontaires?
Est-ce une cachette ou on repousse le tout puis c'est encore une moins bonne stratégie? Parce que là, tu permets pas, et c'est ce qu'on dit toujours en économie puis du côté des entrepreneurs, à ces gens-là de prévoir. Alors, plus t'attends, ils ne peuvent pas prévoir. Moi, dans ma tête, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'on attend parce qu'on sait que ça va être problématique? Tu sais, quand on se fait dire 4 km de fermé sur René Lévesque, là où il y a plein de commerces, des auberges, etc., où la vie se passe par parcomètre dans ce coin-là parce qu'il n'y a pas d'autres stationnements.
Exactement.
Ou très peu. Où est-ce qu'on va détourner ça? Puis on nous dit, bien, probablement que pendant le fait que Grande Allée ne sera pas piétonne. Hé, hey, là, déjà, depuis hier, il y a bien des gens qui disent, oh, ça va être le bordel.
Ben
fait
oui.
Imagine quand on va être encore plus clair.
Ben c'est ça, parce qu'on a parlé ce matin, dans Marceau le matin, à Marc-Antoine Munoz, propriétaire là, d'un restaurant justement sur René Lévesque, puis il nous disait, ouais, ben savez-vous, j'ai pas été encore informé, fait que circulation locale, moi j'ai un valet parking avec un parking en arrière, les clients vont-tu pouvoir emprunter le boulevard René Lévesque comme des citoyens locaux pour que mon valet parking aille les stationner en arrière? C'est pas normal que quand on annonce que René Lévesque va être fermé à cause des travaux du tramway, ce propriétaire de restaurant-là, c'est pas exactement ce qu'il va pouvoir faire.
Ben oui, puis en plus, on entend qu'il y aura des mesures pour les aider, mais là encore là, est-ce des mesures financières? Puis tu sais, OK, t'entends ça. Pourquoi est-ce que c'est pas coulé dans le béton en ce moment puis qu'ils savent pas depuis un an?
Exactement.
On se rapproche beaucoup trop près de la date où ça va se passer.
Oui.
Déjà, c'est commencé. Février, c'est demain. C'était hier, à la limite. Le printemps, c'était hier aussi, celui qui s'en vient.
Oui.
Pourquoi on n'était pas prêt avant ça?
Ben, c'est ça. Puis Marc-Antoine nous raconte, il dit, ouais, peut-être qu'ils nous l'ont pas dit pour pas qu'il y ait de fuite dans les médias. Ouais, mais si tu fais les choses correctement, là, je m'excuse du terme, tu vas t'en sacrer comme dans l'an 40 que ça fuit dans les médias. On va choisir des bonnes nouvelles qui vont fuiter.
Oui, 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 je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Puis je trouve que officiellement, pour le tramway, il n'y a rien qui va aider à l'adhésion au projet. T'sais, même ceux qui étaient d'accord, par le bourbier que ça va créer un petit peu partout, ça laisse aucune chance.
Oui, par ce manque de communication-là, je suis exactement à la même place que toi. Puis Isabelle qui nous écrit, pour le moment, là, le gouvernement ne reculera pas sur le télétravail. Ça va être 3 jours en présentiel. Ils ont fait un pied de nez à Bruno Marchand. Et ça, c'est une autre erreur, selon moi, de stratégie de communication, Pascal. Bruno Marchand est passé par les médias pour dire au gouvernement, « Hey! » Permettez-leur d'être en télétravail quand le gouvernement, ça fait 2 mois qu'il livre cette bataille-là avec les différents partis syndicaux. Oui. C'est une rencontre en privé, ça, qui s'apprend. C'est pas par les médias.
Non, pas du tout. Puis je suis d'accord avec toi parce qu'il y a beaucoup de projets. Colin, on est vraiment sur la même longueur d'onde parce qu'en plus, les gens qui nous écrivent le disent. C'est au moment où je la prends dans les médias, c'est le moment où je la prends pour la première fois. Vous ne m'avez jamais impliqué. Puis on parle pas d'implication pour décider du dit projet. On parle d'implication pour venir porter à l'oreille de nos décideurs des choses qu'ils n'ont pas imaginées, qu'ils n'ont pas vues. C'est comme dans tout. On parlait du projet de loi en santé au provincial. À quel moment on est allé voir les gens sur le terrain pour dire où est-ce que ça peut achoper, où est-ce que ça peut créer plus de complexité que nous aider à faire avancer la santé au Québec?
En effet.
Là, c'est à plus petite échelle, mais à très grande échelle au niveau de transport, circulation dans notre ville de Québec, quand on n'a pas d'autre option que le RTC, qui lui aussi branle dans le manche. Je m'excuse, je ne veux pas insulter personne, mais là, rendu là, un fait, c'est un fait. Le RTC, ça branle dans le manche, dans bien des projets, dans bien des circuits. Là. Est-ce que je suis dans...
T'es pas dans le champ du tout. Bon, t'as entièrement raison.
C'est notre seule autre option. Ouais. C'est notre seule autre option.
En plein ça. Et puis Kim qui écrit, « Hey, j'aimerais ça, moi, que Bruno Marchand me dise, ça va être quoi le bordel, Manal Fect? Jusque où ça va être un bordel? Parce que ça va me faire hésiter à acheter mon laissez-passer. Ça va me faire prendre ma décision. Je l'ajoute-tu ou je ne l'ajoute pas? »
Combien de laissez-passer ont été à vendre la fois qu'on a appris la grève du RTC? Imagine si c'est un problème de transport.
Ben oui.
Là, on avait Uber Taxi de ce monde, on avait les Avelo.
Oui, puis on avait René Lévesque ouvert, Laurier ouvert, puis l'Université Laval d'accessible, si on va aller se stationner là.
On n'avait pas les bus qui roulaient comme d'habitude.
Non.
Mais on avait un peu d'autres
On avait l'infrastructure. Là, on va avoir des bus, mais pas d'infrastructure. Ça risque d'être pire, tant qu'à moi.
Ça va pas faire du vélo de montagne sur René Lévesque pendant le FEC, là. Pense-y.
Let's go. On organise une compétition, moi, puis toi, Pascal.
Mais je trouve ça triste parce que c'est aussi un des moments, l'été, où c'est la façon de capitaliser tellement d'argent pour notre grande région avec le tourisme.
D'accord à 100%.
Avec les festivals comme ça. Je comprends que c'est un projet de transport, on doit le faire, on est rendu là, on ne peut pas aller par en arrière, on avance. Mais par contre, on est toujours dans la même problématique. On ne travaille pas en amont, puis on ne va pas consulter les gens sur le terrain. Puis consulter les gens sur le terrain, ça ne veut pas dire changer notre projet, ça veut dire adapter les feuilles auxquelles on n'a pas vu venir certaines problématiques.
En effet. 418-971-1021, oui ou non, vous êtes satisfait de la stratégie de communication de la Ville de Québec, aussi simple que cela?
Tu sais, il y a des gens qui vont nous écrire, ils vont continuer de nous écrire. Si vous avez des informations pour nous là, qui viennent un petit peu de l'underground, parce qu'on a su, nous, que ça allait ouvrir en février grâce à des auditeurs qui nous écrivaient, qui étaient dans le domaine de la construction. Mais tu sais, il y a du monde qui nous écrivent aussi certaines informations, comme des restos, mettons, dans le coin de René Lévesque, dans le coin de Grande Allée. Ils ont des terrasses, devant, habituellement.
Ben oui.
Il y en a qui investissent beaucoup d'argent pour être certains d'être capables d'en faire le moindrement cet été, parce que vous savez que la restauration, c'est un peu l'enfant perdu du gouvernement
Clairement.
Au niveau financement. Mais pour construire des choses en arrière, pour pas avoir une vue, excusez-moi, de merde pendant l'été.
Non, t'as entièrement raison.
Mais s'ils sont pas au courant, comment ils peuvent s'adapter?
T'as raison, 100%. On prend pas soin de nos entrepreneurs, on prend pas soin de nos citoyens, on prend pas soin du consommateur qui veut aller au centre-ville pour encourager la Ville de Québec. On le fait pas parce qu'on communique mal jusqu'à présent. Dans le prochain bloc, vous allez entendre Valérie Beaudoin, Pascal, que tu nous as déniché pour parler de la politique américaine. Vraiment, ce qui se passe au Minnesota, c'est très questionnant. Alors, on va revenir là-dessus. L'administration Trump qui recule tranquillement, mais sûrement. Alors, on va discuter de ça avec Valérie Beaudoin. Et Victor Henriquez également sera avec nous. On va revenir sur notre entrevue avec Charles Milliard qu'on a fait en début d'émission. C'est disponible sur le blvd.fm. Ce sera disponible libre à compter de 14h si vous voulez aller réécouter cette entrevue. Charles Milliard qui a été très ouvert à nos questions et également là, avec Victor Henriquez, évidemment. On va parler du travail de Mark Carney aussi face à Donald Trump et aux États-Unis. Le temps de faire quelques petites nouvelles sportives. Vous rappelez que le Canadien de Montréal l'a emporté hier 3-2 en prolongation sur les Golden Knights de Vegas. C'est Jake Evans qui a marqué le but gagnant, son 6e de la saison en prolongation sur une superbe manœuvre. Grosse victoire du Canadien parce que le Canadien, dans une course effrénée aux séries avec les Bruins de Boston et les Sabres de Buffalo, les Bruins l'ont emporté 3-2 sur les Prédateurs. Et également, on a eu du côté des Sabres de Buffalo une victoire de 7-4 à Toronto. Le Canadien, ce matin, a décidé de congédier son entraîneur des gardiens de but, Éric Raymond, face aux mauvaises performances de Samuel Montembeault et Jacob Dobesch, qui est tantôt bon comme hier, tantôt moyen. Il est remplacé, là, justement, par l'entraîneur des gardiens de but, qui était au niveau du Rocket de Laval, qui a notamment travaillé avec Dobesch. Donc, c'est M. Marciano qui va prendre les rênes des gardiens de but à Montréal.
Écoute, par texto, avant de passer à Valérie Baudouin qui va nous jaser politique américaine. Jeff, beaucoup de textos. Les gens vont tomber en télétravail, ils ne voudront plus retourner au bureau. Ça va être peut-être désert, le centre-ville, le Vieux-Québec. Ça va causer plus de tort que de bien. Mais peut-être que l'avenir va nous dire autre chose. Mais à suivre pour le moment, on ne recule pas aussi dans tout ça, du côté des informations. On dirait qu'on veut plaire au maire Marchand, soit de gérer les communications comme se veut actuellement. Dans les rapports de communication, quoi, que là, Marchand devrait parler plus par rapport au tramway. C'est beaucoup ce que les gens nous disent par texto. Et c'est pour être le bordel pendant le fait. Quelqu'un dit « J'aimerais le savoir avant la vente des billets », tu l'as dit. Mais il y a des gens qui vont plus loin avec ça. Ils disent « Hey, moi, là, je colle bleu. » Puis il y a même une défaillance sur la communication. Imagine au public, il colle bleu.
Imagine-toi, au sein de l'organisation. Ah, oh, c'est vraiment particulier ce qui se passe avec la Ville de Québec.
Puis il y a des gens qui se sentent un peu lésés là-dedans en disant hey, « je viens d'apprendre qu'il y aura encore des travaux dans les raies, donc je pense à déménager parce que je suis tannée avec ma famille. » Un quartier aussi qui a beaucoup de poussière.
Limoilou est un chantier depuis 3 ans.
Puis je peux t'en témoigner, j'habite pas loin de là, je le vois. Et en terminant, quelqu'un qui me dit « on dirait qu'on se fout des petits commerces de proximité qui font vraiment vivre notre vie puis qui choisissent de s'établir ici puis de faire rouler l'économie. »
C'est un excellent point, vraiment. Honte à la Ville de Québec présentement dans sa façon de communiquer.
À Boulevard 102.1. Avec...
Émission Mangeuse, on parle énormément de politique municipale parce que la Ville de Québec, c'est votre ville et on veut que ça se passe mieux. Mais on regarde également toujours ce qui se passe au sud de la frontière parce qu'il y en a des choses invraisemblables qui arrivent et surtout ce qui se produit présentement au Minnesota avec 2 personnes qui ont été... abattu par la police ICE depuis 2 semaines là-bas. Et pour en parler avec nous, on a l'excellente chroniqueuse en politique américaine, Valérie Baudouin. Valérie, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Avec plaisir.
Valérie, est-ce que tu sens que l'organisation Trump commence à reculer sur son offensive des policiers ICE au Minnesota avec les commentaires qu'on a entendus hier?
Oui. Mais là, on voit que c'est assez fragile, hein, tout ça, parce que, hier, on disait, puis même avant hier, qu'on avait des constructions, des discussions constructives. J'allais faire comme l'inverse, des discussions constructives avec les élus démocrates du Minnesota, avec le gouverneur Tim Walz, qui d'ailleurs, là, pour rappeler à vos auditeurs, était le coulissier de Kamala Harris pendant la campagne électorale, avec le maire de Minneapolis. Bref, ça semblait être de bon augure. On avait tensé un des responsable des opérations de ICE qui était très problématique, je veux dire ça comme ça. Donc, on avait dit qu'on allait retirer certains agents et tout ça. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que finalement, Donald Trump dit que le maire de Minneapolis joue avec le feu. Hein. Alors, ce qu'on dit, c'est que peut-être la paix serait fragile entre les deux parce que le maire de Minneapolis a rappelé que lui, il ne voulait rien savoir d'appliquer les lois de Trump sur l'immigration dans sa ville. Alors, il a dit, moi, je vais pas demander à mes agents d'appliquer ça, oubliez ça. Donc là, Donald Trump, il dit, attends, là, des gens de son cercle, pouvez-vous lui dire qu'il est en train de jouer avec le feu? On a eu des bonnes discussions, mais là, le fait qu'il dise ça, il est en train de, justement, s'opposer à des lois fédérales. Bref, On sent une désescalade, mais est-ce que la désescalade est vraiment là pour rester? Je pense que politiquement, pour Trump, il faudrait vraiment qu'il y en ait une.
Il y a des gens qui se demandent aussi s'il ne va pas perdre. On parle de perdre sa base, mais en ce moment, il y a bien des gens qui voient rouler l'économie, oui, certes, assez bien dans certains secteurs, mais dans d'autres, extrêmement complexes, avec la fin, en fait, des réserves qu'ils avaient mis de côté en achetant canadien avant l'imposition des tarifs. Ça va faire mal aussi à ses supporters. Est-ce qu'on est en train de voir peut-être le règne de Donald Trump s'effriter, parce que là, il y a bien des gens qui prennent une nouvelle position face à l'homme?
Bien, je pense que sa base, tout ce qui se passe avec ICE, sont d'accord. En général, là, si je vois les commentaires sur les réseaux sociaux, si on parle de sa base, là, même s'il y a eu mort d'homme et tout ça, là, c'est pas, ils sont vraiment du côté de Donald Trump par rapport à cette stratégie aussi controversée et agressive soit-elle. Les Américains, en général, par rapport à tout ce qui est immigration, on semble être de moins en moins d'accord avec les tactiques du président. Et pour ce qui est de l'économie, c'est là que c'est beaucoup plus large. Là. Pour l'économie, en général, les gens disent que ça va mal. Ça se passe pas bien. Ça se passe pas de façon désastreuse, mais il n'y a pas non plus d'amélioration de leur sort. Et si on se souvient, en campagne électorale, il avait promis que on va baisser le coût de la vie, l'épicerie, ça va coûter moins cher, l'essence, se loger, etc., etc. Et finalement, ben, sondage après sondage, ce que les Américains disent, c'est que leur situation est soit restée la même ou elle est pire qu'elle était. Puis à un moment donné, on peut pas juste mettre la faute sur l'ancien président. Là, c'est toujours la tactique là, pour un président, que ce soit démocrate ou républicain, de mettre la faute sur l'autre. T'sais, je veux dire, ils l'ont tous fait, mais ça fait quand même un an et il y a eu de grosses promesses. Donc ça, c'est vraiment le dossier qui fait mal aux républicains. C'est ce qui pourrait peut-être faire qu'ils vont perdre les élections de mi-mandat qui sont en novembre prochain. Juste dire que Trump n'est pas sur le bulletin de vote, mais c'est comme un peu un référendum sur sa présidence. Donc, est-ce que les républicains vont perdre le contrôle du Congrès en novembre? Si les élections étaient demain matin, je serais plutôt confiante pour les démocrates.
Il y a quelque chose quand même qui peut être inquiétant, c'est de voir des gens aller se loger dans les extrêmes. Hein? Bon, 100% pour une immigration non contrôlée, non régie, etc. Et de l'autre côté, ben 100% contre une immigration, peu importe, qui vient à bon port puis participe à l'économie d'une belle manière, de façon humaine. Est-ce qu'on est en train de voir justement ces deux clans-là prendre plus de force ou on a encore espoir d'avoir la zone grise?
Je te dirais qu'il y a quand même pas mal de zones grises, surtout dans les dernières années, parce que il y a vraiment eu là, beaucoup, beaucoup d'immigration irrégulière à la frontière les dernières années avec Joe Biden. On voyait là, il y avait vraiment un flux de migrants qui n'arrivaient pas ici, ils n'arrivaient pas aux États-Unis, je veux dire, par les voies légales. Donc ça, il y a des gens qui voulaient une frontière qui est moins poreuse, hein, qui est plus qui est fermée entre guillemets, là, qui est peut-être pas nécessairement fermée, mais avec une meilleure surveillance, une meilleure sécurité et tout ça. Ça, il y avait quand même pas mal d'Américains qui étaient d'accord avec ça, même pour les démocrates pendant la campagne électorale. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais c'est un peu touchy. Là. C'était, on voulait pas trop être juste pro-immigration à 100%, avec, à part pour certains, je dirais, élus plus à gauche, là, mais en général, on essaie de se situer à peu près au milieu. Alors, il y a beaucoup d'Américains qui étaient d'accord avec le fait d'expulser des migrants, mais des migrants dangereux, hein, parce que c'est ça, la campagne électorale. Hein. C'était toujours les violeurs, les gens de gang, les gens des cartels.
Ceux qui mangent nos animaux de compagnie.
Oui, mon Dieu, j'avais oublié ça tellement que c'est quoi, cats and dogs, ça c'était...
Que de bons souvenirs, Pascal, merci, c'est donc bien gentil de nous rappeler ça.
Ça fait vraiment pas plaisir.
Écoute, je retourne dans les souvenirs de campagne électorale, peut-être que j'avais voulu effacer. Pour
ouais, moi aussi j'avais effacé ça de ma mémoire, Valérie.
Un vidangeage inconscient.
C'est ça, mais par rapport à l'immigration, tu sais, les gens étaient d'accord en général, je te dirais autour de peut-être quoi, un genre de 60% qu'il fallait expulser certains migrants. Mais finalement, c'est pas ce qu'on voit. Tu sais, ce qu'on voit, ça va être par exemple une mère de famille qui va chercher ses enfants à l'école, qui peut être interpellée. C'est des gens qui disent que c'est même dans les écoles. Les enfants veulent plus aller à l'école parce qu'ils ont peur. On va plus à l'hôpital pour les rendez-vous médicaux aussi, ce qui est très dangereux. On sort pas de la maison pour l'épicerie. Les Américains, je veux dire, qui ont une citoyenneté, là, tout est en règle, qui ont une couleur de peau qui est différente, qui parlent avec un accent ou qui parlent espagnol, ben là, ils ont peur de justement se faire interpeller. Alors, il y a tellement de débordements, de violences aussi, qu'on a vu, les événements de Minneapolis, du Minnesota en général, qu'ils perdent là, ce côté-là. On va trop dans les extrêmes, justement. Alors, oui, la zone grise est encore là, mais dans la zone grise, on se dit, c'est pas parce qu'on veut qu'il y ait une meilleure, comment dire, réglementation autour de l'immigration qu'on veut que les gens meurent sous les balles de ICE et qu'il y ait des familles qui soient complètement séparées. Et c'est des gens quand même s'ils ont des fois des situations régulières, il y en a qui sont en processus de demande d'asile. Ils ont comme tout fait en règle. Puis finalement, bon, on dit, ben non, même si tu fais en règle ton processus d'asile politique et tout ça, ben on t'expulse dans ton pays d'origine. Donc, il y a une frustration quand même grandissante par rapport à ça.
Valérie, en terminant, les États-Unis sortent de leur plus long shutdown budgétaire qui s'est produit à la fin de l'automne, début hiver, et là, on pourrait y retourner en raison qu'il y a énormément d'élus qui ne veulent pas financer de façon additionnelle la police ICE et même des sénateurs républicains. Est-ce qu'on s'en va vers un deuxième shutdown en quelques mots aux États-Unis?
C'est mon psychodrame qui revient très, très souvent. Cette menace d'un shutdown, là, à chaque fois qu'il faut voter un budget, on est toujours sur le bord de. Mais oui, c'est quand même sérieux, cette possibilité d'avoir une autre paralysie budgétaire. Oui, tu as très bien raison de le mentionner. C'était le record, là. C'est 43 jours cet automne, cette paralysie budgétaire. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, justement, les sénateurs disent, ben là, on va pas voter pour un budget qui inclut de l'argent pour le département de la sécurité intérieure. On veut par geste un peu de pas de solidarité, mais de boycott ou envoyer un message politique, dire ben on va voter pour un budget, là, comme c'était prévu, mais séparer le budget pour la sécurité intérieure. Et comme ça, on va éviter un autre shutdown, une autre paralysie. Est-ce que c'est ce qui va arriver? Ben peut-être que oui, parce que sinon, ça risque d'être difficile, voire impossible de faire passer le budget parce que les républicains ont besoin, en fait, de tous voter dans la même direction et en plus au Sénat d'avoir des votes démocrates. Et en ce moment, c'est vraiment pas ça qui se passe. Au contraire, on parle de destitution de la secrétaire à la sécurité de l'intérieur. On met de la pression sur le gouvernement. On n'est vraiment pas en mode on se tient la main. On est tous très heureux ensemble de ce qui se passe là.
Valérie Beaudoin, chroniqueuse politique et chercheuse associée au très reconnu observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Valérie, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Toujours très pertinent tes commentaires.
Avec grand plaisir. À bientôt.
Merci, à bientôt. Valérie Beaudoin, une analyste politique qu'on adore ici sur les ondes de Boulevard 101, que vous entendez à l'occasion de l'émission On en jase.
Le midi, on en jase à Boulevard 101.
Ah, Pascal CV, on va aller rejoindre un autre de nos chroniqueurs qu'on adore. Le remplaçant d'Antonine Iaccarini dans le caucus. Là, aujourd'hui, là, c'est un show pas comme les autres. D'habitude, le caucus, Pascal, est de midi à midi et demi. Mais là, Charles Milliard venait s'asseoir en studio avec nous autres. Fait qu'on a dit, on va déplacer ça. Là, on a dit, il se passe bien trop d'affaires aux États-Unis, ça nous prend Valérie Beaudoin. Valérie, on le sait, elle est souvent à la télévision, avait des heures restreintes. Fait que je veux remercier notre ami Victor Henriquez, qui, lui, est arrivé et a dit, savez-vous quoi, ça me dérange pas. Déplacez-le, le caucus, ça va me faire plaisir de m'entretenir avec vous vers la fin de l'heure de midi. Donc, il est midi 50 sur les heures de Boulevard 102.1.
C'est presque, un caucus partagé. Là. Depuis le début de l'année, on pourrait l'appeler le caucus point. Parce que Victor mérite sa place au même titre qu'Antonine Iaccarini.
Ah, Victor est exceptionnel.
Moi, je vis très bien avec le statut de remplaçant d'Anthony Iaccarini. Il n'y a pas de problème. Mais je suis bien content aussi d'avoir laissé la place à Charles Millard, quand même, hein, chef libéral dans quoi, 14-15 jours. Mm-hmm. Et Valérie Beaudoin, qui est toujours aussi pertinente.
As-tu eu la chance d'entendre notre entrevue avec Charles Millard où tu étais occupé? Oui. Parce que je sais que tu es un homme occupé.
Non, je voulais absolument l'écouter. Et je trouve que... c'est quelqu'un qu'on va... Moi, je pense qu'on va gagner à connaître M. Millard. Hein. C'est un style très différent, plus technocrate, un peu comme style. Puis ça va être intéressant parce que je vois un peu le même style de Christine Fréchette. Puis je pense que, quelque part, c'est le même genre de candidature. Et je pense que M. Millard a des idées très claires sur plusieurs aspects. J'ai aimé sa réponse, par exemple, sur la loi 96 puis la loi 21. Moi, j'aime ça quand les questions sont simples, que les réponses le soient autant. À partir du moment où tu me dis « oui, ça va rester, on part sur une base intéressante », j'ai souvent dit que c'était une nécessité pour les libéraux d'être plus clair sur ces aspects-là. Je pense qu'il va amener quelque chose d'intéressant. Alors, ça aura pris un an de plus, mais il va finir par se rendre là où je pense qu'il doit être pour les prochains mois.
Est-ce qu'il est capable de remonter ce parti-là après toutes les histoires de corruption à la Pablo Rodriguez?
Dans un contexte normal, je t'aurais dit non, mais dans le contexte actuel, tout est possible pour une raison très simple. La situation que les Québécois, l'autre fois que les Québécois vont avoir à faire à la prochaine élection, il va être extrêmement polarisé. D'un côté, on a un parti québécois qui, on l'a vu en fin de semaine, hein, est très porté vers son ambition référendaire, très clair là-dessus. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de la stratégie de Paul Saint-Pierre-Plamondon de partir un nouveau débat sur les plaines d'Abraham, même si je suis tout à fait d'accord avec lui, avec Charles Millard, sur le fait que Mark Carney n'aurait pas dû réécrire l'histoire.
Trop porté le PQ à l'heure actuelle sur la souveraineté. C'est Pascal qui me faisait remarquer ça à son retour mardi en disant « Ah, il me semble que c'est tôt en tabarouette pour commencer la campagne référendaire. » Puis je suis d'accord, moi, avec ce propos-là.
Ben, c'est trop, c'est comme pas assez. Hein. Tu sais, moi, je trouve qu'on a overkill la situation. Tu sais, je suis d'accord. Puis je pense pas que c'est une petite controverse. Je pense que c'est une erreur que Mark Carney a faite, une erreur importante. Je pense pas qu'il va la faire deux fois. D'ailleurs, invitation à tous les politiciens. Quand vous commentez le passé, c'est toujours risqué. Parce qu'on peut en faire n'importe quelle lecture aujourd'hui, mais laissons l'histoire aux historiens. Puis parler du présent et de l'avenir, ça va vous mettre dans des zones moins risquées. Mais oui, je pense qu'il a fait de l'overkill là-dessus. Je pense qu'ultimement, l'enjeu va être là, c'est que les Québécois, ils ont plein de choses qui les préoccupent. Ils sont préoccupés par Trump, ils sont préoccupés par le coût de la vie, ils sont préoccupés par le logement. Est-ce que vraiment on veut nous parler de souveraineté? Moi, je ne pense pas que ça va accrocher.
J'ai une question pour toi, Victor, par rapport au contenant. Oui, au contenu, parce que bon, il nous l'a dit, pour lui, ça va être des enjeux. Il veut discuter d'enjeux, puis pas des affaires qui est groupées autour. Mais... Il semblait, puis je l'ai un peu pointé pour qu'il puisse développer, avoir beaucoup d'optimisme, de positif, de ci, de ça. Mais on est dans quelque chose de très aride au niveau de la politique en ce moment. C'est même risqué. Il faut les bonnes personnes aux bonnes places. On peut perdre beaucoup, on a déjà perdu beaucoup. Bon, après, on a nos opinions personnelles. Quelles sont les, peut-être, que tu observes, qualités et les défauts de M. Milliard dans l'atmosphère politique actuelle?
Je pense qu'au niveau des qualités, il y a un élément qui a amené, d'ailleurs, il en a parlé tantôt, il dit « je veux amener le pharmacien en moi », puis je trouve ça intéressant. On a besoin de ce côté cartésien dans des crises. D'ailleurs, Mark Carney l'illustre extrêmement bien, puis je vais vous parler un peu plus dans pas long du sondage sur Mark Carney. Mais ce qu'il apporte d'intéressant, c'est qu'il a l'air lui-même de quelqu'un de plus cartésien que l'était Pablo Rodriguez, de peut-être un peu plus technocrate, peut-être un peu plus plate. Mais être plate n'est pas nécessairement un défaut quand on a besoin de gens efficaces au gouvernement. Et là-dessus, je pense que les Québécois vont être ouverts. Comme je disais, c'est un peu ce que je vois chez Christine Fréchette aussi. C'est moins flamboyant, ça fait moins de bruit, ça fait moins de grandes promesses. Et vous savez quoi? Les grandes promesses, ça coûte cher. Et les grandes promesses, ça insécurise. Et quand il y a des crises comme celle qu'on vit avec Donald Trump, qui va durer encore pendant une couple d'années, la dernière chose qu'on veut, c'est des gens qui vont trop risquer. On ne veut pas des gamblers, on veut des gens safe.
Victor, venons-en justement au sondage Mark Carney, parce que c'est un véritable raz-de-marée, le sondage léger qui est sorti ce matin. À l'échelle du Canada, 47 % pour les libéraux, 38 % pour les conservateurs. Au Québec, les libéraux ont 46 % les conservateurs 22 % et le Bloc québécois a perdu 12 % pour être à un plancher de 26 %. C'est du jamais vu depuis le mois de septembre 2025 pour eux. Et là, quand on regarde province par province, 63 % en Atlantique pour les libéraux, 51 % en Ontario et au Manitoba et en Saskatchewan, les libéraux sont nés à nez que les conservateurs à 44 % contre 46 %. Victor, on s'en va en élection au printemps?
On pourrait s'en aller en élection au printemps si Mark Carney voulait aller chercher une majorité. Moi, je ne pense pas qu'on va aller en élection au printemps parce que je vais être honnête avec vous. Moi, je pense que Mark Carney va devenir majoritaire dans les prochaines semaines. Moi, je suis convaincu. Rappelons-nous, il est à un député de la majorité. Moi, je suis convaincu qu'après le vote de confiance des conservateurs en fin de semaine, il va y avoir du mouvement à Ottawa.
Ah, c'est tellement un bon point.
Il y a des gens chez Modéré qui sont tannés. Qui sont tannés des années Papoyev, qui voient bien les chiffres. Et en ce moment, ben, on regarde ça et on se dit, mais pourquoi on ferait une élection? Finalement, avec deux, trois conservateurs qui changent de bord, on vient de régler le problème, puis on s'en va pour un autre 3 ans.
Peux-tu nous expliquer le genre de virement, changement de cap qu'on a vu dans les deux dernières semaines par rapport à Mark Carney? Tellement de gens qui disaient, ah non, il ne livre pas ce qu'il devrait livrer. Il était très, très critique en ce début de mandat-là. Et là, oups, ça commence à flipper un peu. Dans ton œil d'analyste, qu'est-ce qui s'est passé?
M. Carney est en train de réussir à ce que j'appelle changer le narratif. Okay? Le narratif, c'est quoi? C'est cette grande histoire qui se raconte. Et Davos a été un point tournant. Je suis convaincu qu'on se rappellera de Davos très, très longtemps parce que les Canadiens ont vu de quoi était faite leur premier ministre. Cette capacité, justement, à rallier, s'est tournée à l'international. On s'est demandé la première année à quoi ça servait. Puis quand on arrive avec le discours de Davos qui a été applaudi par tout le monde, il faut quand même rappeler qu'il y a eu une ovation debout, ce qui est très, très rarement arrivé à Davos. Là, je lisais les commentaires, puis c'est arrivé seulement 3 fois, donc c'est assez exceptionnel. Et ce discours de Davos va avoir expliqué un peu ce qu'il était en train de construire dans les derniers mois. Maintenant, c'est sûr que c'est temporaire. Les sondages, c'est toujours temporaire. C'est une photo. Elle nous démontre une chose, par exemple, au Québec importante. Le discours de Davos a poigné. Et le discours des plaines d'Abraham, les gens s'en foutent un peu. Excusez-moi de le dire comme ça, mais oui, c'est ça que ça nous dit. Ce que ça nous dit, c'est que les gens ne sont pas préoccupés par ça, parce que ce n'est pas le moment de se préoccuper par ça, parce que les Québécois ne sont pas fiers. Les Québécois sont très fiers, et je ne pense pas qu'ils l'auraient pardonné, ce discours-là, dans un autre contexte, mais dans le contexte actuel, c'est un peu passé dans le beurre, cette critique-là. Et Mark Carney, il est dans une position comme celle-là parce qu'il est extrêmement méthodique, parce qu'il est plus cartésien qu'émotif, et parce qu'il a construit un narratif où est-ce qu'il ne se présente pas comme celui qui va lutter contre Trump de façon hyper exagérée, mais il dit les vraies choses, puis il n'a pas peur de les répéter. D'ailleurs, c'est là qu'il l'a répété à Donald Trump.
Le Bloc québécois, 26 % au Québec, ça te dit quoi, Victor? Ça te dit qu'on est beaucoup plus préoccupé présentement par la politique internationale et la politique qu'on a avec nos voisins du Sud, les États-Unis, que la souveraineté? Ouais.
Ce que ça me dit, c'est qu'on est plus polarisé que jamais. Hein. Quand on regarde les chiffres, ce qu'on voit, c'est pas un effondrement des conservateurs. En ce moment, ils ont monté de 2 points dans les sondages. Ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, le Bloc s'effondre et dans le reste du Canada, le NPD disparaît. Alors, littéralement, c'est ça qui est en train d'arriver, c'est qu'on a cette espèce de clivage entre les conservateurs et les libéraux. Moi, le vote de bloquiste, il y a une chose que je ferais du côté du PQ, c'est que je serais attentif à ça parce que c'est une très mauvaise nouvelle pour le PQ que le Bloc a 26 %.
Est-ce que tu vois que ça va encore être de plus en plus difficile de se serrer les coudes entre le provincial et le fédéral dans les prochaines années?
Je pense qu'au contraire, ça va être intéressant de voir le choix que les Québécois vont faire à la prochaine élection parce que ça va déterminer ce que tu viens de dire, Pascal. Cette capacité de se serrer les coudes avec le fédéral, elle va dépendre de quel type de gouvernement on choisit. Et c'est là où je vais être honnête avec vous. Moi, dans les derniers jours, je trouve que Christine Fréchette a peut-être une possibilité de marquer des points dans le cœur des Québécois. On a eu tendance à penser que c'était un peu fini pour la CAQ. Et moi, quand j'écoute Mme Fréchette, puis j'entends dire, par exemple, que c'est le pire moment en 50 ans pour faire un référendum, il faut garantir que c'est le genre de phrase qui, à Ottawa, plaît bien. Et ce qui fait qu'on peut se dire qu'à la prochaine élection, on aura peut-être 2 partis qui nous propose de collaborer avec le fédéral plutôt que de tomber dans un référendum. Et peut-être que ces 2 partis-là ont une chance de l'emporter.
Et c'est moi qui se trompe. En terminant, Victor, elle se détache beaucoup du côté identitaire de la CAQ. Là, elle a dit « Bah, la Constitution, c'est pas le temps pour faire ça. » Elle ne parle pas beaucoup, justement, de la nation, de ce nationalisme. Elle parle beaucoup plus en matière économique. Donc, elle se positionne plus dans le camp fédéraliste, Christine Fréchette.
Moi, je vais la positionner dans le camp autonomiste économique, surtout un fédéraliste, pas tant, là, c'est quand même, vous vous rappelez, c'est une ancienne du Parti québécois, donc je ne suis pas sûr que c'est une fédéraliste tant que ça, mais il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'elle a un équilibre bien, bien brillant. Regardez, hier, elle annonce l'appui de Jean-François Roberge, probablement un des plus grands représentants du nationalisme identitaire à la CAQ, qui dit « Madame Fréchette, c'est celle qui incarne le mieux la CAQ ». Et le lendemain, elle dit « Moi, la Constitution, on verra après les consultations. » Donc, il y a cette espèce d'équilibre intelligent qu'elle est en train de mettre en place, de ne pas se mettre à dos les identitaires nationalistes, mais de bien leur faire comprendre que peut-être qu'en ce moment, la priorité n'est plus là. On a fait une partie du travail dans les 7 dernières années, mais là, ce qu'on a besoin, c'est d'un gouvernement économique. Et là-dessus, il semble y avoir une espèce de pensée commune que le gouvernement économique, c'est ce qui réussit. C'est ce que nous dit le sondage, c'est ce qu'incarne M. Millard, c'est ce qu'incarne Mme Fréchette. Et la question, ça va être comment le Parti québécois réussira à l'incarner tout de même. Parce qu'il ne faut pas sortir le PQ de cette discussion-là. Il pourrait arriver avec des super candidats économiques, avec une vision économique extrêmement forte et se réinsérer dans cette conversation-là. Il y a une chose qui est claire. Les Canadiens et les Québécois en ce moment sont préoccupés par leur situation économique, par leur panier d'épicerie, et c'est là-dessus qu'ils vont voter aux prochaines élections fédérales, provinciales ou ailleurs. Ouais.
Chose certaine, Victor Henriques, on est parti pour une année politique sur les chapeaux de roue, comme on l'a vécu en 2025, puis ça fait notre bonheur parce qu'on trippe sur la politique.
Attachez votre tuque, ça risque de bouger. Souvent, ça risque de bouger vite. Alors, je pense qu'on va se reparler peut-être. Hein? Ça risque d'arriver.
Oui, ça va arriver certainement. Victor Henriquez, c'est toujours un bonheur quand tu collabores avec nous à l'émission d'Angers. Merci beaucoup pour ton temps ce midi.
Le remplaçant d'Antonin Iaccarini.
Voilà.
Il veut qu'on l'appelle de même. Salut, Victor.
Bye.
Alors, c'était un caucus en format accéléré avec Victor Henriquez. Je le répète pour ceux qui ne sont pas habitués à notre émission. Normalement, le caucus qui est avec Antonin Iaccarini du lundi au jeudi, c'est de midi à midi et demi. Mais aujourd'hui, on avait Charles Milliard à midi. On ne voulait pas rater cette belle opportunité de parler avec le futur chef du Parti libéral du Québec. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a déplacé un petit peu l'horaire. Pascal, dans cet horaire de fou,
oui.
Dans cette lignée de collaborateurs intéressants avec Valérie Beaudoin et Victor Henriquez, on n'a pas encore informé nos auditeurs. Ça le temps de faire une coupe de manchette.
Ben, on l'a
pense?
Fait en entrevue. On l'a
exactement.
Fait,
on a parlé des grands sujets, exactement. Oui. Mais sinon, là, qu'est-ce qu'il y a à retenir? T'es à part moi et toi qui chiale ces travaux du tramway. Là. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Québec?
Je dirais que même pendant l'entrevue avec Valérie Beaudoin, ça continuait d'entrer.
Oui, j'ai voyé.
Vous êtes fort intéressant dans vos informations. Vraiment. Il y a des restaurants qui risquent de fermer et qui y pensent déjà. En passant, j'ai eu des petits scoops. Vous pouvez toujours nous écrire. En passant, il y en a qui rentrent dans ma boîte Messenger. Il y en a qui rentrent au 88-971-102. Il y en a qui rentrent dans la boîte Messenger de de tout le monde, finalement. Continuez de le faire parce que il y en a un qui disait qu'à gang, on sait tout, puis c'est vrai.
Ouais,
en passant, on a ouvert une ligne directe qui est fort intéressante. C'est celle de Mathias Turcotte,
oui, tu fais
notre
bien
collègue. Puis ça, là, je pense que ce serait la façon la plus intéressante de nous contacter. C'est l'adresse courriel citoyen au singulier @blvd.fm. Tout ce qui vous préoccupe peut aller là. Donc, vous avez des scoops, vous avez des informations. C'est aussi un endroit supplémentaire où vous pouvez le faire parce qu'on va continuer d'enquêter, on va continuer de travailler sur le terrain pour vous, puis on fait ça à la gang. Mais c'est sûr que le projet de tramway fait jaser. Puis c'est sûr que le projet de troisième lien fait jaser. Puis ça a été le cas parce que le député fédéral Jean-Yves Duclos a pris la parole et lui a dénoncé ouvertement ce projet de troisième lien. On dit que ça va défigurer, éventrer la base ville, qu'on en a déjà assez sur nos réseaux routiers. Donc, le corridor central qui a été retenu par la CAQ, ça fait pas du tout son affaire. Dans la nouvelle mouture, ben, il y a le projet de pont-tunnel. Ça prendrait sa source près du chemin des îles à Lévis, puis ça aboutirait, là, autoroute Robert-Bourassa, donc soit sur le boulevard Pierre-Bertrand du côté de Québec. Et ça aurait des effets dévastateurs, selon le député fédéral. Des effets aussi sur les quartiers comme Saint-Malo, Saint-Sauveur, Vanier. Et c'est certainement dans un endroit qui, pour lui, est difficile à imaginer qu'on éventrerait des quartiers comme ça et que ça passerait pour des corridors de transport. Donc, il a pris une grande prise de parole quand même importante. Il l'a qualifié d'horreur urbanistique. Le projet de troisième lien.
Donc, une très grande prise de parole. Mais on s'entend, même les pros troisième lien veulent rien savoir du corridor central. Je sais pas pourquoi qu'on s'entête du côté de la CAQ.
C'est la fin d'un programme de fidélité au RTC. Alors là, à vous de nous parler de vos commentaires.
Ah oui, j'ai vu ça!
C'est le réseau de transport de la capitale qui a annoncé, là, ça vient d'être fait dans les dernières heures, que c'était la fin de l'abonne-bus perso. Bon, ça, c'est quoi? Ben, c'était une offre qui permettait aux membres de profiter d'un rabais, puis le rabais allait jusqu'à 25 pour l'achat de laissez-passer mensuel. Ça va se terminer dans 2 mois. Donc, le 31 mars 2026 a terminé. Sur le site Internet, le RTC, bon, parle d'une décision qui est vue pour le logiciel utilisé pour un programme d'abonnement qui est désuet. Donc, on n'est plus là-dedans. On ne veut plus aller là-dedans. On a décidé d'investir dans un logiciel de remplacement. Une nouvelle solution bilectique, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, qui va être mise en place prochainement. Et ça va permettre d'offrir aux clients du RTC des options de paiement plus simples, plus flexibles et mieux adaptées à leurs besoins. C'est ce qu'on lit. Je vous les lis de façon intégrale. Alors, probablement qu'on peut espérer avoir quelque chose de mieux, mais ça va se terminer d'ici là, le 31 mars. Sinon, ben, on sera là pour en jaser avec vous. Mais il faut savoir que les usagers devaient s'abonner sur une période minimale de 3 mois. Puis on avait un tarif préférentiel. C'était lié à l'abonne-bus, là. C'était 74 et 63 qui étaient prélevés chaque mois dans le programme de fidélité. Puis le tarif mensuel régulier, c'était 99 et 50. Alors, pour ne pas dire 100 $ par mois.
Comme par hasard, pendant que le centre-ville va être pris des travaux du tramway puis que la meilleure façon de se rendre, ça va être en bus, ben, on enlève le rabais à ces gens-là qui travaillent au centre-ville.
Écoute, ça, c'est le petit
puis
point
je te rappelle qu'il y a un déficit au RTC. En tout cas, bref.
Tu as besoin de me rappeler. Depuis que j'ai commencé ma carrière, qu'il y en a un.
J'ai peut-être un esprit complotiste présentement. Pardonne-moi.
Non, mais de travailler à l'interne, tu sais, c'est toujours intéressant de t'entendre là-dessus. Dans 30 ans, tu ne pourras pas être notre expertise par excellence.
Non,
tu vas
non,
être
non.
Un vieux papy.
Ben, c'est ça, je vais être un vieux papy qui va dire « Dans mon temps, c'était bien mieux! »
Okay, oui, d'accord, Jean-François, mais...
Hey, je vais te rappeler, on faisait ça de même avant.
C'était pas bien fait. Bon, regarde, j'espère, d'ici 30 ans, ça va grandement s'améliorer, mais on va avoir un genre de petit œil de sourcil là-dessus.
Oui,
parce
vraiment.
Que c'est vrai que les gens qui devront se tourner vers le réseau de transport par obligation et non par choix,
ouais.
On espère, auront un genre d'abonnement quelconque,
ben,
économie, ou parce que, tu sais, je veux dire, ce n'est pas des gens qui le choisissaient d'abord et avant tout. Il ne faudrait pas s'en mettre plein les poches avec l'offre et la demande à ce niveau-là. Puis ça va être une obligation. Donc, ça va encore faire en sorte qu'il y ait des gens qui n'adhéreront pas à ce nouveau projet-là. Ils vont trouver ça difficile
tellement
d'être obligés.
Puis d'avoir mettre la pièce de plus. On travaille vraiment à contresens présentement avec le projet de tramway. Une petite dernière pour la route.
Contrat de 3 millions de dollars pour l'héliport du méga hôpital de l'Enfant Jésus. Ça a été donné de gré à gré. Donc, l'entreprise qui a été retenue pour superviser l'installation de cette plateforme-là, c'est sur le nouveau complexe hospitalier de l'Enfant Jésus. Là, on est en rénovation depuis quelques années et tout ça. Puis on a sélectionné l'Enfant Jésus sans concurrence pour éviter des délais et des coûts supplémentaires. Donc, le 14 novembre dernier, la Société québécoise des infrastructures avait publié un avis. Puis cet avis-là s'apprêtait à conclure un contrat de gré à gré avec la société néerlandaise Byers Illideck BV. Et ça comporte une dépense plus grande que le seuil d'appel d'offres public. 3 095 000 $ le 11 décembre dernier, c'est ce qu'on signait, c'est ça pour quoi on s'attendait. On s'entendait, mais il n'a pas été rendu public avant mardi, donc hier. Là. Et c'est une entente qui porte plus précisément sur l'acquisition de la supervision de l'installation d'une plateforme d'héliport, diverses composantes dans le cadre du projet de construction du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Enfant Jésus, phase 2. Encore de longues phrases pour qu'on comprenne pas tout à fait rapidement la première fois qu'on en parle, mais plateforme d'héliport, elle devrait être fonctionnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et hey, ça, c'est plus que notre traversier Québec-Lévis.
Oui, c'est vrai, ça. Hey, c'est donc bien bon comme projet.
Mais il va devoir avoir présence d'un système de chauffage performant parce qu'on veut que ça soit sec, la surface.
Pas le choix.
Pas de glace, pas de neige.
Donc, à suivre dans ce dossier-là, l'hôpital L'Enfant Jésus, là, le nouveau méga-hôpital qui prend forme tranquillement, mais sûrement. Après la pause, Pascal, on parle avec un modèle féminin en politique, une personne que j'admire, Catherine Fournier, qui a décidé, avec sa belle bedaine de femme enceinte, de prendre des photos pour le magazine Clin d'œil dans la section lingerie printemps-été.
C'est-tu quoi, Jeff? Est-ce que je suis la seule pour qui la réaction a été « OK, oh ouais, scandale ».
Ah, oh, moi, pas de scandale
là,
là-dessus,
lingerie, mais
ouais, pas
maillot...
lingerie, je me suis mal exprimé. Bon,
peut-être
là.
Pour toi, c'était moussé, mais toi, moi, honnêtement, j'ai rien vu des
moussés. C'est du linge classique glamour.
Elle a un maillot de bain où on voit rien.
Exactement.
Avec une belle grande robe, c'est classe, puis elle est enceinte. Si quelqu'un est en train d'hypersexualiser le fait d'être enceinte.
C'est ça. On parle de ça avec Parlez-moi Catherine pas. Fournier, après la pause, à Boulevard 102.1. L'émission N'en jase.
Chez un DN Bar le soir du match, une valeur de 1 200. Réserve ta place dès maintenant sur restaurantnormandin.com. Du 5 au 8 février, Simard Cuisine et Salle de bain vous attend à Expo Habitat Québec. Vous avez un projet de construction neuve ou de rénovation? Profitez-en pour en discuter avec notre équipe sur place. Pendant toute la durée du salon, une promotion Expo Habitat est en vigueur et une soumission rapide peut être faite sur place. Apportez simplement les dimensions de votre cuisine, nos designers vous proposent des choix et vous repartez avec une soumission budgétaire en quelques minutes. Simard Cuisine et Salle de bain, le haut de gamme plus accessible que vous ne le croyez.
Garde, maman, un rhinocéros!
Ça, mon grand, c'est pas un rhinocéros, c'est un hippopothèque.
Un hippopo quoi?
Un hippopotame.
Quand l'endettement prend toute la place, Tremblay et compagnie syndic autorisée en insolvabilité prend le relais. Visitez TremblayCIE.com.
Automobile en direct est maintenant ouvert à Québec au 2400 avenue Dalton. Viens découvrir le plus grand choix de véhicules d'occasion au Québec. Passe nous voir en semaine de 9h à 21h ou le samedi et dimanche de 10h à 17h. Automobile en direct, ton auto, on l'a direct.
Cet hiver, vivez Charlevoix autrement à l'hôtel Le Petit Manoir du Casino. Profitez d'une pause hivernale et économisez 25% sur l'hébergement. Réservez votre séjour dès maintenant au petitmanoirducasino.ca.
Envie de sortir et de passer une soirée différente? Pourquoi ne pas essayer le Kinzo? Partagez un bon moment entre amis en jouant à ce jeu unique où le suspense fait monter l'énergie d'un cran. Vous pourriez même gagner jusqu'à 25 000 $ Ou prenez simplement place au bar pour savourer une bouchée et profiter de l'ambiance. Venez vous divertir dans nos 21 salles situées aux quatre coins du Québec et découvrez dès aujourd'hui pourquoi le Kinzo est si unique. Kinzo, là où tout le monde se retrouve. Une expérience signée Loto-Québec, 18 ans.
Les longues soirées d'hiver, c'est encore meilleur autour d'un jeu de société Passe-temps 3000. Un choix incroyable de jeux pour tous les goûts et tous les âges. Et avec tout achat de 40 $ et plus, recevez une carte cadeau de 10 $ Passe-temps 3000, 445 rue Soumande.
Vivez dans un immeuble qui se distingue à la tête des ponts. La Forêt Québec propose des unités avec une vue exceptionnelle sur le fleuve, du studio au 5,5, ainsi qu'une formule tout inclus. Espace commun complet, commerce au rez-de-chaussée et plus. La Forêt Québec, audacieusement bien pensé.
On en jase à Boulevard 102.1. Les gros dossiers du jour, ce qui se passe dans notre ville, tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14 heures, on en jase.
Je préviens. On
jase. Émission d'En jase, ton émission du midi, le midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. Si t'es à l'écoute pour une première fois, ben, tu te rends compte qu'on parle d'actualité, on parle de sport, on fait le tour des gros dossiers pour toi dans un 2 heures en mode accéléré. Et...
vous.
Exactement. Il y a une autre émission.
On n'a pas entendu. Hein? Ouais, c'est oui, ça. On est là pour vous.
Et voilà. Il y a une autre émission qui est vraiment bonne sur nos ondes. Là. Elles sont toutes bonnes. Là. Mais de 14 à 18, le retour de Denis Gravel.
Et grosse programmation ce soir.
Oh, 16h30, le maire de Québec, Bruno Marchand, sera en studio. Vous avez des questions à poser. Envoyez pas trop d'insultes là, pour les communications sur le tramway, mais c'est sûr qu'on va en parler des travaux du tramway, des patinoires qui pourraient fermer. On va parler de tout ça avec Bruno Marchand, 16h30, avec Denis Véro et Audrey. C'est sûr que Denis va encore user de sa très grande expérience pour cuisiner le maire Marchand. Puis juste avant l'apparition du maire Marchand, Pascal, dans l'émission de Denis, ça va être notre collègue Mathias qui est sur le terrain, qui va passer aux alentours de 16h. Il va revenir justement de cette deuxième conférence de presse de trois sur les travaux du tramway. On va parler des mesures, surtout du RTC, puis pour les commerçants. Alors, on va être informé de ceci et Bruno Marchand va venir s'asseoir. Donc, ça va vraiment être une heure politique municipale à ne pas manquer dans le retour de Gravel de 16h à 17h. Et le retour de Gravel, évidemment, c'est de 14h à 18h. Marceau le soir de 18h à 19h. Puis on repart la roue avec Marceau le matin à 6h et le point de max de 10h à midi. Pascal, politique municipale, c'est très plaisant, mais on va aussi parler de politique provinciale. Je sais que tu étais à l'extérieur, mais t'as-tu vu ça en fin de semaine, le PSPP qui s'est envolé? Là?
Moi, j'ai suivi la politique, peu importe si j'étais
la
à l'extérieur.
La campagne
aussi, parce que...
référendaire est commencée,
et
Pascal.
Et si tu manques
c'est
une journée, tu manques un
oui.
mois en ce
et
moment.
Et Mark Carney, maintenant le chef du camp du non, ce qui a amené Marc Tanguay avec ses lunettes à la Emmanuel Macron à dire « PSPP, tu vas t'excuser de ce que tu as dit parce que tu nous as traités d'esclaves ». Et qui de mieux pour nous en parler que notre excellent chroniqueur politique, Lambert Drainville. Lambert, comment vas-tu?
Salut la gang, très content avec vous autres, comme d'habitude.
Ah, nous aussi, on est très content de te parler. Lambert, faut-tu qu'il s'excuse, PSPP, ou faut pas qu'il s'excuse?
Hey, les excuses, on peut-tu... moi, je pense qu'il faut que ce soit très grave pour commander des excuses. Pour sortir en point de presse et dire officiellement là, que... l'autre partie, le chef, doit s'excuser. Il faut que ce soit quand même quelque chose de majeur. Je trouvais que ça avait plus sa place quand j'ai vu François Blanchette en fin de semaine demander à Mark Carney de s'excuser après ses propos complètement à côté de la traque.
Très d'accord.
Concernant la conquête, là, je trouvais qu'il était allé vraiment trop loin, fait que ça s'y prêtait plus. Tu sais, on dirait que étant au Parti libéral, hier, je me serais attendu à ce qu'il mette beaucoup plus l'emphase sur... Ben, au-delà de ce que PSPP a dit, en passant, j'ai toujours un petit malaise quand même là, quand je vois des chefs de parti, des chefs d'État cités, là, des Mandela et Gandhi. Là, ça, c'est mon éditorial à moi. Là, fermons la parenthèse. Mais au-delà de ça, je ne pense pas que ça commandait de lui demander des excuses. Ils auraient pu, tu sais, d'un parti qui essaie de reprendre un peu la carte de l'économie, taper sur le clou à la place de ça, parce que ce qu'on reproche beaucoup à PSPP, suivant son discours, c'est, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est un petit peu à côté des priorités des Québécois, là, tu sais, présentement, qui veulent savoir quel est le plan du gouvernement et des gouvernements possiblement en attente sur le coût de la vie, sur améliorer l'état de nos services publics, de nos infrastructures. on dirait que si j'avais été le Parti libéral, c'est sur ce clou-là que j'aurais beaucoup plus tapé que de demander des excuses parce qu'il a cité Gandhi. Là. Et le défi pour PSPP, ben, c'est évidemment là, de... c'est toujours une ligne un petit peu délicate à marcher. T'sais. C'est un projet de pays, tabarouette. Il veut faire du Québec un pays. Il n'y a rien de plus gros que ça. Fait que c'est sûr qu'il doit en parler, mais en même temps, il doit quand même se positionner, comme je le disais, comme un gouvernement en attente, avec des propositions efficaces qui parlent aux Québécois sur leurs priorités du moment. Et les priorités du moment, à regarder les sondages, ce n'est pas au-dessus de la, sur le dessus de la pile un éventuel référendum, mais beaucoup plus, encore une fois, le coût de la vie. Alors, tu sais, avant de faire son référendum, il va falloir qu'il se fasse élire. Et pour se faire élire, il va lui falloir des propositions qui parlent au monde.
Oui, puis on voit peut-être un petit déficit à ce niveau-là en ce moment. Puis, tu sais, une des publications qui m'a fait le plus aller en ce sens aujourd'hui, c'est Émilise, l'ancienne députée au niveau de Québec solidaire, qui a parlé du coût de l'épicerie au Journal de Québec en disant qu'il faut arrêter de dire que ça coûte cher. Puis, il y a tellement de commentaires là-dessus. Tu sais, tu le vois que de revenir aux priorités quotidiennes des gens, c'est là où tu performes au niveau de la politique. Mais comment tu fais, Lambert, pour passer des priorités quotidiennes là, de la chaumière à celles qu'il faut travailler en amont?
Ben, je pense que tu peux, mâcher de la gomme et marcher en même temps. Je pense que tu as toute une équipe qui travaille pour toi, tu as toute une équipe qui est dédiée à la plateforme du parti. Ils sont déjà certainement en réflexion par rapport à la prochaine campagne électorale. Qu'est-ce que contiendra leur plateforme? Alors, ils ont un plan, ils savent où ils s'en vont, ils ont leur livre bleu. Fait que, tu sais, ils font le feuillage du livre bleu au fur et à mesure. Ça leur permet de garder vivant le narratif souverainiste. Ça, je trouve ça très bien. Et par la suite, comme je disais, des propositions plus concrètes. Je suis certain qu'ils en ont. Ils doivent juste réussir à ce que ça fasse parler plus. Mais encore une fois, c'est pas facile là, quand que, d'un côté, tu parles du beau grand projet de pays, de mettre de l'avant, bien écoutez, on va essayer de diminuer le prix de votre panier d'épicerie de 5$ avec telle ou telle mesure. Fait que c'est sûr, c'est pas un équilibre qui est facile à trouver, comme je disais.
Lambert Drainville, on saute dans la course à la direction de la CAQ. Jean-François Roberge qui a décidé d'appuyer Christine Fréchette hier avant le début du caucus de la CAQ. Charles Milliard a qualifié ceci du baiser de la mort pour Mme Fréchette en raison que M. Roberge a fait des politiques en immigration qui sont venues ralentir l'économie au Québec. T'en penses quoi?
J'ai pas trop compris, encore une fois. T'sais, au même titre que le Parti libéral est un peu à côté de la traque sur selon moi, le discours de PSPP en fin de semaine. Je trouvais que la sortie de Milliard sonnait un petit peu faux, encore une fois. Madame Fréchette, là, en ayant cherché l'appui de Jean-François Roberge, elle n'a pas dit « Je cautionne 100% de ce que Jean-François Roberge a fait depuis qu'il est au gouvernement », au même titre que c'est des autres ministres qui l'appuient. Tu sais, si Charles Milliard, là, Jean Charest se levait demain matin et disait « Moi, j'ai envie d'appuyer Charles Milliard à la chefferie. »
Ah oh, ben non, Charles Milliard dirait « Monsieur Charest, c'est la corruption autour de vous. Je ne veux pas de votre appui. »
Ben voilà, un peu... Est-ce que ça voudrait... J'ai l'impression d'abord et avant tout qu'il saluerait son appui avec grand enthousiasme, première chose. Et deuxièmement, ça ne voudrait pas dire que, justement, comme tu l'as si bien dit, Milliard cautionnerait tout ce que Jean Charest a fait à l'époque où il était au gouvernement, incluant tout l'épisode de Commission Charbonneau. Alors, c'est une game de perception, tu sais. Il y a deux candidats à la course à la chefferie de la CAQ qui veulent envoyer... Au final, quand même bien que tu aurais plus d'appui que l'autre, ça demeure... Ils ont tous quand même un seul vote. Lorsque ce sera le temps de voter pour les différents candidats, mais leur but, c'est évidemment d'envoyer le message que, regardez, j'ai beaucoup plus de collègues, ministres, députés qui m'appuient, moi. Alors, vous, militants, ben, vous devriez prendre connaissance de ça et peut-être que si mes collègues m'appuient, ben, c'est parce qu'effectivement, je suis la bonne personne, mais ça va pas plus loin que ça. Là.
Parlons de Bernard Drainville et l'appui de Régine Laurent. Bon, à ce niveau-là, elle a choisi son candidat. C'est une femme qui est hautement impliquée. C'est une femme qui a fait la commission. Laurent, c'en est une qui est vue très, très humaine, mais aussi capable de ne pas mâcher ses mots. Moi, j'ai toujours et j'aurai toujours le souvenir de l'entrevue qu'elle avait fait avec François Legault. Les années où il y avait un podcast, très, oui. Très courtes années. Régine Laurent qui appuie Bernard Drainville, ça veut dire quoi?
Ben là, on vient juste d'apprendre qu'elle a démissionné de son poste au conseil d'administration de Santé Québec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'effectivement, quand, selon la loi et les règles déontologiques, T'sais, un membre d'un organisme public a le droit de conserver sa liberté d'opinion politique, mais à titre personnel. Il ne doit pas compromettre la neutralité politique de l'État et de ses organismes. Fait que tu as le droit d'avoir ton opinion, tu as même le droit d'avoir une carte du parti à toi, mais tu ne peux pas vraiment appuyer publiquement sur les médias sociaux ou même en point de presse, comme on l'a vu au congrès de la CAQ, ben, un candidat. Et c'est là que c'est devenu un petit peu problématique pour elle. Elle avait pourtant dit qu'elle avait fait ses vérifications au préalable. Visiblement, c'était pas exact. Alors, ben là, écoute, ça, c'est d'autant plus majeur, tu sais, pour Bernard Drainville, je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Ça reste, ça demeure un appui, une femme qui a beaucoup, beaucoup, qui est très, très appréciée au sein de la société québécoise. Et là, avec le fait qu'elle démissionne d'autant plus du conseil d'administration, ben là, tu te dis, tabarouette, elle a été prête à mettre sa job sur la ligne pour le supporter. J'ai tendance à penser que c'est un appui qui demeure majeur, qui demeure de taille. Mais évidemment, il est loin derrière Christine Fréchette, qui aura d'ailleurs reçu 4 nouveaux appuis de 4 femmes, Suzanne Roy, Pascale Derry, qui est une ministre, et 2 autres, là, Catherine Blouin, et j'en oublie une, là, mais Christine Fréchette continue à faire le plein d'appui. Et Bernard Drainville qui tire de la patte à ce niveau-là. Et je suis allé faire un tour, les amis, dans le passé pour voir un peu. Tu sais, les précédentes courses à la direction du PQ, du Parti libéral, depuis les années 90...
Hey, vas-y, informe-nous de ça.
Et voir, tu sais, qui appuyait qui, puis ça, quel a été le résultat au final. Alors, quand on regarde si le passé est garant de l'avenir et qu'on regarde ces différentes courses à la chefferie-là, ben 2001, tu avais la course à la chefferie pour remplacer Lucien Bouchard. C'était Bernard Landry contre Pauline Marois. C'est Bernard Landry qui avait l'avantage clair au niveau des appuis au caucus du PQ. Pauline Marois avait des appuis en minorité et c'est Bernard Landry qui l'a emporté. En 2013, Jean Charest, qui doit être remplacé, c'est Philippe Couillard, Pierre Moreau et M. Raymond Bachand qui sont dans la course à la chefferie. Philippe Couillard, avantage massif au niveau des appuis du caucus. C'est lui finalement qui l'a emporté. 2016-2017, même chose. Pierre-Carl Péladeau a quitté. Il faut le remplacer. C'est Jean-François Lisée qui est contre Alexandre Cloutier, notamment pour la course à la chefferie. Dans ce cas-là, Lisée avait encore une fois un plus grand nombre d'appuis, mais ce n'était pas par une grosse marge, mais c'est quand même lui qui l'a emporté. Alors, bon, si l'histoire est garante de l'avenir, tous les exemples que je viens de vous donner, les gens qui avaient le plus d'appuis du caucus ont fini par l'emporter. Le seul contre-exemple que j'ai trouvé, c'est en 2005, après le départ de Bernard Landry, Mme Marois avait été choisie. Non, c'est pas vrai, Mme Marois se présentait pour remplacer Bernard Landry contre André Boisclair, et c'est Mme Marois qui avait l'avantage du plus d'appui chez les députés, elle qui était au PQ depuis un bon nombre d'années à ce moment-là. André Boisclair, c'était comme l'étoile montante, et c'est Boisclair qui l'avait emporté, donc allant chercher le plus d'appui chez les membres, même s'il n'avait pas le plus grand nombre d'appuis au caucus. Par contre, à ce moment-là, il faut quand même se rappeler que des 2 candidats, entre Pauline Marois et André Boisclair, ben c'est André Boisclair qui avait réussi à incarner le changement par rapport à justement Pauline Marois qui était là depuis longtemps et les vieilles instances du Parti québécois. Alors, ce que j'en déduis, c'est que la seule façon avec laquelle un candidat peut l'emporter sur un autre qui a plus d'appui au sein du caucus, bien, c'est évidemment s'il y a plus de membres à l'interne qui l'appuient. Et souvent, ça va venir avec la capacité pour ce candidat-là de, à tout le moins, se positionner comme le changement, comme André Boisclair avait réussi à le faire à l'époque. Et donc, si on regarde le léger d'avant les fêtes, c'est Bernard Drainville qui est en avance au niveau des militants caquistes. Donc, tendance à penser que chez les gens qui votent pour la CAQ, était bel et bien en avant de pas mal d'ailleurs par rapport à Mme Fréchette, mais elle a un gros déficit de notoriété, elle est beaucoup moins connue. Alors, j'ai tendance à penser que plus la course avance, et si Christine Fréchette réussit à se positionner comme celle qui représente le plus gros changement par rapport à François Legault, elle pourrait aller chercher les appuis additionnels chez les militants caquistes qui vont se dire, ben là, si elle représente pour les Québécois moyens le plus gros changement par rapport à Legault, ben c'est peut-être elle qui va nous donner les meilleures chances d'être élue aux prochaines élections. Alors, est-ce que les militants caquistes vont tranquillement transférer leur appui qui est présentement beaucoup plus du côté de Bernard Drainville vers Christine Fréchette. Ça demeure à voir, mais Bernard Drainville, avec beaucoup moins d'appui, une chose est certaine, s'il veut se donner une chance, il doit trouver une façon de représenter une cassure par rapport à François Legault. Et c'est autant pour Mme Fréchette que pour M. Drainville le défi présentement. Puis la vérité, c'est que ça ressemble, pour l'instant, à les écouter parler, ça ressemble à une grande continuité, autant d'un côté que de l'autre, de l'époque François Legault.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Lambert Drainville. Toujours un bonheur de te parler. On se parle vendredi dans le segment avec Farnell Morisset. On va se trouver des petits sujets à discuter, des sujets d'actualité politique, évidemment. Merci, Lambert, pour ton excellente contribution.
Merci beaucoup. On se parle vendredi.
Salut, à vendredi. Lambert Drainville, chroniqueur politique sur nos zones. Il est avec nous les mercredis, toujours d'habitude aux alentours de 13h. Là, aujourd'hui, comme on l'a si bien dit, Pascal, on a remanié cet horaire-là pour cette émission avec l'entrevue qu'on a avec Charles Milliard au début, justement, de l'émission.
En manchette, juste rappeler, parce que Lambert l'a mentionné, mais appui à Bernard Drainville, Régine Laurent a quitté Santé Québec. On aura plus de détails fort probablement dans le retour avec Denis Gravel, Véro et Audrey.
C'est clair. Dans un instant, on revient pour la conclusion de cette émission. On va vous dire quoi surveiller dans l'actualité. Et dans le sport, vous êtes à l'émission Nangeas sur Boulevard 102.1. Déjà la fin de cette belle émission sur BLVD.fm. On se retrouve nos meilleurs moments, notamment nos entrevues avec Charles Milliard, futur chef du Parti libéral du Québec, et Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. J'ai adoré cette entrevue-là, Pascal. Quelle personne généreuse et quelle personne audacieuse.
Oui, je pense qu'elle reste authentique à elle-même. Je fais toujours attention parce que, bon, ça reste des politiciens, donc on peut toujours être surpris de quoi que ce soit. La chose est... Je comprends pas qu'elle soit là-dedans. Mais au moins, elle s'en va répondre aux questions. Puis je trouvais ça intéressant qu'elle ait analysé que c'est peut-être quelque chose qui a été créé et non une vraie polémique.
Exactement.
Sinon, Charles Milliard, moi, ça a été mon coup de cœur aujourd'hui. Oui. La discussion qu'on a eue avec lui, là, je pense qu'on a à entendre un peu ce candidat-là qui se présente et qui risque d'être élu, comme tu as bien dit.
Ah oui, parce que Mario Roy ne récupérera pas le 18 000 $ en dette, malheureusement. Pauvre M. Roy dans cette course. Pascal, ce soir au hockey, l'Avalanche du Colorado est à Ottawa pour affronter les Sénateurs à 7h30. Mais à 19h30, devrais-je. Mais... demain soir, 19h, au Centre Bell, l'Avalanche va être les visiteurs avec les gilets des Nordiques.
C'est ta grosse game, là. C'est là qu'on ne te dérange pas ce soir.
C'est là. C'est pas ce soir, c'est demain.
Demain.
Et tu sais, on a un ami du show qui aime beaucoup venir nous parler, Stéphane Turcot.
Oui.
Un journaliste sportif émérite à Québec depuis une trentaine d'années. Bien, demain, midi 45, il est en studio avec nous. On va faire le tour de ce duel-là canadien-nordique. Puis on va poser la question aux auditeurs au 418-971-1021 demain. Êtes-vous fébrile comme moi? Hey, moi, là, je le vois comme la game de hockey que j'attends depuis l'année passée, la finale de la Coupe des Quatre Nations entre le Canada et les États-Unis.
Tu l'attends presque depuis ta jeunesse, finalement,
oui.
Quand les Nordiques ont quitté Québec.
Oui, puis là, ce qui est le fun, c'est que mes gars sont avec moi demain soir. Fait qu'eux autres vont avoir leur gilet du Canadien, puis moi, je vais pouvoir les écœurer. Puis leur crier des insultes.
Tu vas revivre des vieilles années, là.
Oui, je vais revivre des vieilles années. Alors, c'est ce qui nous attend dans le sport. On rappelle, Pascal, le retour de Gravel, évidemment. Bruno Marchand à 16h30. Mathias Turcotte qui va revenir de la conférence du tramway à 16h. Une belle heure de politique municipale dans Gravel dans le retour cet après-midi. Pascal, c'est vrai, toujours un bonheur de faire de la radio avec toi.
C'est partagé. On se retrouve demain midi.
On se retrouve demain midi. Bye, guys. Merci beaucoup d'être à l'écoute de Boulevard 101.